Au Capiation, Nicole Ngaka et J.R. Lungu.
En Ituri, plus de 200 êtres féminins sont victimes de viols sexuels et domestiques tout le mois. Ce bilan est celui d'un réseau des associations des femmes regroupées au sein de l'organisation féminine Forum des Mamas de l'Ituri, formée en sigle. Cette ONG locale qui encadre les personnes victimes de différentes violences faites aux femmes juge ce bilan impressionnant et regrette que la plupart des auteurs de ces cas de viol échappent aux sanctions prévues par la loi en République démocratique du Congo. Conséquence, souvent cette impunité favorise le développement de la violence du groupe. Suivez ce reportage.
Les bilans de Parfumi indiquent qu'on retrouve les victimes à tous les âges. Cette organisation reconnaît qu'une fois violées et par après identifiées, les victimes sont conduites et soignées gratuitement à l'hôpital de l'ONG Médecins Sans Frontières à Bounia. Ensuite, d'autres organisations leur assurent la prise en charge psychosociale, socio-économique et même une assistance juridique. Plusieurs sources concordantes estiment que les auteurs sont en majorité des militaires, sans exclure quelques civils. Samedi dernier, la cour militaire de Kisangani a condamné à 10 ans de servitude pénale principale pour viol avec violence et destitué de l'armée un officier FRDC. Ces derniers étaient reconnus auteurs d'un cas de viol exercé il y a 2 mois sur une fillette de 13 ans. La cour a sommé les gouvernements congolais de verser à la famille de la victime 2 000 $ américains en titre de dommages. La maman de la victime témoigne.
Nikona kete yangu ya 13 ans anaenda lokola moto kunyumba major kuti komboko. Major anabloke mtoto ndani nyumba. Major anavyolia mtoto asubuhi dimanche mtoto anaona basi maumivu inapita anaenda kumonesha bavuazi banamwita major. Major anakatala anasema ana reconnaître mtaka mtoto 100 francs. Ikedi naenda ku MCF, MCF bananipokea bien mubana kusikia mtoto banampatia mtoto vaccine banampatia matuka batuna mtoto bien na ni karudia tiku nyumba bakatosha nini dosye bakalipatia dosye ni karudia nayo ni kaita batu ya droit de l'homme na batu ya droit de l'homme nyo batidia kile probleme tina mbake yi probleme nafika mwisho mbala mkondane 10 ans akidomaye mtoto 2000 dollars.
Dans des jugements dont les militaires sont mis en cause, les gouvernements congolais est chaque fois sommé de verser aux victimes une certaine somme en titre de dédommagement. Chose qui se fait rarement, estime Fomi. Jacqueline Mal aussi, coordinatrice des Fomi, interpelle le gouvernement à prendre en compte l'espoir des victimes.
Nous ne cessons que de crier, de plaider au niveau de la justice militaire, justice civile, au niveau des autorités administratives et même auprès des autres partenaires internationaux et auprès des parlementaires que nous estimons être les porte-parole du peuple pour qu'ils fassent parvenir nos plaintes et nos doléances à de grandes instances.
À Ituri, les commis regroupent une centaine de ONG féminines qui militent contre les violences faites aux femmes. Bounia, Jean-Claude Bissiliabo, Okapi Action.
Voilà, merci à Jean-Claude Bissiliabo de nous avoir présenté ce reportage. Comme je l'ai annoncé précédemment, nous avons dans ce studio Madame Baïdila qui vient nous entretenir avec nous autour de cette question sur l'impunité qui favorise le développement de la violence de groupe. Madame Baïdila, très bonjour.
Bonjour, encore une fois.
Voilà, alors, disons, est-ce que c'est à tort que les gens pensent que l'impunité est une marque de l'injustice?
L'impunité est vraiment une marque de l'injustice. Parce que quand les gens commettent des crimes contre la société, par exemple dans ce cas précis, il s'agit des femmes à Ituri où la situation est vraiment déplorable et que les bourreaux ne sont pas punis, en fait je ne sais pas ce que cela peut représenter dans la tête des personnes qui vivent ces situations, mais c'est très très déplorable. Donc il faut absolument qu'on puisse punir ces gens qui commettent ces genres d'actions, parce que les personnes qui sont victimes des violences sexuelles sont vraiment dégradées en tant que personnes humaines. Elles perdent, ces personnes-là, tout ce qu'elles ont d'être humain, tout ce qu'elles ont de plus importante dans leur personnalité en tant que personne humaine. Alors, il ne faut pas qu'on puisse penser un seul instant à l'impunité. Il faut absolument que ces gens-là soient poursuivis et qu'elles puissent comprendre que ce qu'elles commettent comme crimes sont très, très dangereux, sont très déplorables pour toute la société. Donc, il faut que ces gens-là puissent compenser les actes de violence commis par des peines appropriées. Et ces peines-là, moi, je pense, ne doivent pas être 5 ans de prison. C'est tellement grave. Et il faut que ces gens-là soient punis devant toute la communauté pour que les autres personnes... Exactement, pour que les autres personnes aient peur.
Est-ce que vous pensez vraiment que les victimes de violences sexuelles, parce qu'il s'agit de ces cas, peuvent elles-mêmes s'élever un jour pour développer une certaine violence parce que les bourreaux n'ont pas été poursuivis?
Absolument, parce que les violences ne sont pas que sexuelles. Quand elles sont victimes des violences sexuelles, ce sont des gens qui vont se réconcilier. Alors, ils vont développer d'autres formes de violence. La violence verbale, pourquoi pas la violence physique également. On a vu des gens qui ont été violés et devenir violents eux-mêmes. Pourquoi pas commettre, ces personnes-là commettre elles-mêmes d'autres crimes parce qu'elles se sentent rejetées par toute la population, rejetées par la société. Donc, elles vont chercher à se défendre d'une manière ou d'une autre. Parce que quand on se reconquérit, finalement, on va chercher à se défendre d'une manière ou d'une autre, voilà d'où va provenir un problème.
Il n'y a pas un danger quand les victimes de violences sexuelles, par exemple, se reconquérissent et puis elles vont se retrouver à un groupe donc de victimes de violences sexuelles. Il n'y a pas un danger qu'on peut craindre à cela.
Vous savez, les violences de groupe produisent également d'autres violences de groupe. Donc, il faut que je dise, c'est ce que je dois dire ici, c'est que si ces femmes-là qui sont violées ou les personnes qui sont violées se connaissent entre elles, si elles arrivent, ce qui est un peu difficile, parce que généralement dans des cas de violence sexuelle, les gens se taisent. On ne dit pas qu'on a été violé, parce que dans notre culture, ça fait une honte, non seulement pour la personne, mais c'est pour toute la famille, finalement pour toute la tribu, pour toute la communauté. Oui. Ça fait une honte. Donc ces gens-là ne parlent pas, ils préfèrent se taire. Ce n'est pas dans notre culture. Donc il faudra que petit à petit, qu'on puisse amener ces gens. Il faut que nous puissions mettre en place des structures, en fait, l'État, la société civile, des structures qui permettront à ce que ces personnes-là puissent se dévoiler, dire ce qu'elles ont vécu comme problème, et on pourra les regrouper et voir ensemble, parce que quand on est ensemble, on est plus fort pour lutter contre les
mêmes. C'est vrai que c'est parmi les recettes magiques recommandées pour soigner peut-être des blessures intérieures.
Exactement.
Mais est-ce que c'est forcément une cure d'âme qui peut guérir quand l'homme va tout sortir de lui? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il peut les faire, pas d'une manière sincère?
Mais il faudra d'abord que la société puisse comprendre que quand une personne est victime de violences sexuelles, il ne faut pas que cette personne-là soit sujet à des moqueries. Parce que si les gens ne parlent pas, si les gens se taisent, c'est parce qu'elles ont peur qu'elles soient rejetées de la société. Alors c'est ce rejet-là, en fait, qui fait que les gens se taisent, les gens ne parlent pas. Et là, quand on ne parle pas, on est en train, en fait, de revivre d'autres choses en soi qui peuvent sortir sous forme de violence. Et quand il y a plusieurs personnes qui sont violées, même s'ils ne se connaissent pas, mais ce sont des gens qui auront les mêmes comportements. Donc, en fait, même si ce sont des cas isolés, c'est-à-dire des personnes qui ne se connaissent pas, mais parce qu'elles sont nombreuses, donc elles peuvent constituer également des groupes de violence.
Oui, parce que le mal est déjà consommé, le bourreau a commis un crime, il a dévalué la vie d'une femme, et il a, à un certain niveau, il a sous-estimé, il a fait qu'aujourd'hui, la femme n'a plus de valeur dans la société. Et cette femme, en tournant, comme on dit, à chaque cause qui produit des effets, aujourd'hui je suis dévalué, demain je chercherai à avoir une réaction, donc c'est en psychologie,
c'est
stimulé, donc ça peut toujours arriver. Mais si vous demandez à cette femme de s'arrêter ou de se réconcilier avec son bourreau, ne pensez-vous pas que il y a un aspect d'injustice dans la chose?
En fait,
nous dirons la loi du talion et il pourrait d'un pour d'un.
Oui, mais là c'est encore le cycle de violence. Mmh. Si on veut appliquer la loi du talion, on va rentrer dans le cycle de violence, œil pour œil, dent pour dent, donc on n'en finira jamais, on n'en sortira jamais. Mais on a déjà parlé du bourreau qui doit absolument payer parce que il faut qu'il y ait justice. justice. Mais ce n'est pas n'importe qui doit faire payer. Il faut qu'il y ait la justice judiciaire qui va essayer de poursuivre en fait ces personnes-là.
Encore faut-il que la justice soit vraiment impartiale.
Oui, il faut que la justice soit impartiale. On va peut-être parler de ça. Ça voudrait terminer l'idée que j'ai. Et il faudrait que ces femmes qui sont violées, maintenant, il y a la mise en place dans la société civile de ce qu'on appelle les cliniques juridiques. Mmh. En fait, ces cliniques juridiques reçoivent ces femmes-là qui sont violées, qui sont victimes des violences sexuelles. Et il y a une part de psychologie qui est très, très faite de la psychologie qu'on applique à ces femmes-là pour essayer de faire comprendre, pour relever, en fait, faire sortir ces personnes qui sont victimes des violences sexuelles de leur état de honte, de diminution par rapport à leur personnalité. Il y a des cliniques juridiques qui sont mises en place. Le problème ici, c'est que les gens ne connaissent pas, en fait, parce que quand ces femmes sont violées, elles ne savent pas exactement où aller. C'est qui il faut aller pour parler. Parce que même au sein des familles, on se tient parce que j'ai parlé de la honte qui ne concerne pas seulement la personne qui est victime de violences sexuelles, mais également toute la famille. Il y a dislocation des familles parce que s'il s'agit des enfants, le mari va dire la maman sera impliquée parce qu'on va dire qu'elle n'a pas bien gardé les enfants. En fait, c'est un cycle qu'on commence, on commence quelque chose, on ne termine pas ainsi de suite. Donc ce sont des violences et des violences.
Mais l'arrangement, Mia, par exemple, donc, disons, par rapport entre la victime et le bourreau, si ça se fait d'une manière amiable, ça pourrait peut-être résoudre aussi le problème.
En fait, je ne pense pas qu'on peut arranger ce genre de problème à l'amiable.
Oui.
Les problèmes sont très graves. Il ne faut pas que nous, par exemple, qui sommes des médias, nous essayons de minimiser ce genre de choses. C'est très grave, en fait, pour ces femmes. Là, je parle, je suis une femme. En fait, quand une femme est violée, mais elle est vraiment détruite dans tout ce qu'elle a de plus important en elle. Donc, ce sont des choses qu'on ne peut pas arranger à l'amiable. Il faut que ces bourreaux soient punis pour que les choses ne se répètent plus, pour que d'autres personnes aient peur de commettre les mêmes crimes. Donc, il faut absolument que cela soit connu et que ces gens-là soient punis, mais il faut également que les autres personnes soient sensibilisées pour que ceux qui sont victimes des viols ne soient pas rejetés par la société.
Oui, donc là, on revient à tout ce que j'avais posé comme question. Encore faut-il qu'on puisse quand même observer l'impartialité de l'appareil judiciaire.
Absolument. Il faut que l'appareil judiciaire soit impartial. Il faut également, donc pour que ces gens-là soient impartiaux, il faut qu'elles soient des gens qui sont et qu'elles soient des personnes qui sont compétentes. Donc des personnes qui comprennent et qui savent exactement comment juger les choses. Il ne faut pas que l'appareil judiciaire soit influencé par d'autres pouvoirs. Parce que le cas des Ituri, ce sont des crimes qui sont causés pour la plupart des cas par des militaires. Or, les militaires, c'est également un pouvoir. L'armée, c'est un pouvoir. Donc il ne faut pas qu'il y ait un pouvoir qui essaye d'influencer un autre pouvoir. Et ici, nous parlons de l'appareil judiciaire. Il ne faut pas que l'appareil judiciaire soit influencé par un autre pouvoir. Il faut que nous ayons des gens compétents qui comprennent en fait ce qu'ils doivent exactement faire pour essayer de condamner ce genre de choses.
Eh bien, au jour d'aujourd'hui, disons à l'Est, par exemple, il y a une habitude qui a élu domicile, notamment dans des genres de réconciliation, on crée soit des barazas pour ne plus que résoudre des problèmes. Quelle attitude avez-vous par rapport à cela vis-à-vis des femmes victimes de violences sexuelles?
En fait, concernant la réconciliation des conflits avec Baraza à l'est du pays, le système en soi est bon, Baraza, parce que les gens n'ont pas que des problèmes par rapport aux violences sexuelles. Il y a d'autres problèmes dans la société et les gens peuvent résoudre ces problèmes-là parce que ça, c'est un atout que l'Afrique a. Baraza, la résolution de conflits, l'arbre à pas l'arbre, voilà, c'est un atout. Mais quand il s'agit, par exemple, on peut se réunir en communauté pour condamner, parce que l'appareil judiciaire, il y a des juges qui font partie des communautés, qui travaillent avec la base, et ces personnes-là peuvent, tout en étant dans Baraza ou dans Arbre à Palabre, condamner les actes qui sont posés. Moi, je pense que c'est même bien, parce que là, c'est toute la communauté qui va se réunir, un soir ou je ne sais comment, et on va condamner publiquement les actes qui sont posés, et voilà, ça sera l'exemple, le modèle pour d'autres, et c'est peut-être de cette façon-là aussi qu'on pourra essayer d'éradiquer tant soit peu ce mal.
Madame Baïla, une préoccupation, est-ce que une justice, comment dirais-je, impartiale, sociale peut éviter le cycle de violence. Vous avez raison, monsieur.
Je suis sûr qu'une justice impartiale peut bien faire en sorte que le cycle de violence n'existe plus, parce que la justice est une force. Quand dans un pays, dans un État, la justice est impartiale, en fait, les choses marchent parce que les personnes se retrouvent dans leurs droits. C'est très important. Parce que quand les personnes sont lésées dans leurs droits, voilà où il y a cycle de violence. Parce que les gens vont essayer de faire justice elles-mêmes. Les personnes vont se faire justice elles-mêmes. Mais quand il y a la loi, quand il y a l'appareil judiciaire qui est impartial et qui fait bien son travail, il y a moyen d'éviter ce cycle de violence. Parce que ces gens-là seront organisés pour essayer d'éviter ces cycles de violence, parce qu'ils prendront les choses en main.
Alors, lorsqu'un leader développe des idéologies destructrices et dévalorisantes à l'égard d'un groupe, lui arrive-t-il de manipuler l'appareil judiciaire pour mettre en œuvre son idéologie? Si vous avez des exemples concrets.
Oui, c'est possible. C'est possible dans le cas où le leader a le pouvoir. Parce que là, je prends deux cas. Supposons que il y a des leaders qui sont, par exemple, de l'opposition. Là, c'est difficile parce qu'il n'a pas en fait l'effectivité du pouvoir. Mais quand le leader a le pouvoir, ça c'est facile parce qu'il peut manipuler, il peut manipuler l'appareil judiciaire, il peut manipuler d'autres pouvoirs et mettre en place en fait son idéologie destructrice, son idéologie dévalorisante. Mais quand on n'a pas le pouvoir, comment on peut manipuler d'autres forces?
Alors on va toujours évoluer dans des exemples. Est-ce qu'on a déjà vu des violences des groupes s'est développées dans les sociétés où la justice était vraiment fonctionnelle? Des exemples.
On peut trouver. En fait, dans des sociétés où la justice est fonctionnelle, les choses se passent autrement parce qu'il s'agit des sociétés où il y a un état de droit. Il s'agit de sociétés où il y a bonne gouvernance. Le système, en fait, fonctionne vraiment autrement par rapport à des institutions.
Prenons le pays le plus proche de nous, nos voisins les plus proches, le Rwanda et le Burundi, par exemple.
Mais moi, je ne peux pas dire que quand il y a, dans le Rwanda ou au Rwanda ou au Burundi, quand il y a impartialité, quand il y a impartialité de l'appareil judiciaire, on ne peut pas parler de fonctionnalité. Donc, en fait, quand l'appareil judiciaire est impartial, il n'y a pas fonctionnalité. Mmh. Donc, il ne faut pas que nous essayons de comprendre. Il n'y a pas fonctionnalité. Moi, je prends l'exemple de la France avec c'est que les gens les cités ont fait avec Sarkozy, n'est-ce pas? L'appareil judiciaire dans un pays de droit, dans un pays de démocratie, a essayé de réprimer en fait les actions des groupes, parce que l'appareil judiciaire est fonctionnel, l'appareil judiciaire est impartial, mais on ne peut pas avoir le chaud et le froid en même temps dans nos pays.
Je vous pose une conclusion avant de vous retrouver. On va vous retrouver pour la suite, pour savoir un peu. Donc, je rappelle à nos auditeurs que nous sommes en train de parler de l'impunité qui favorise le développement de la violence de groupe. Une fois que nous nous retrouvons en face d'une justice impartiale, cela peut arrêter les cycles de violence. C'est ça, c'est ce que dit Mme Baïzila. On va d'abord trouver la conclusion.
Rappelons que l'impunité est un des facteurs qui favorise l'évolution des violences de groupe. Lorsque des délits insignifiants comme des insultes ou des assassinats ou des viols ne sont pas punis, alors ils sont banalisés et normalisés par notre système. Malheureusement, dans notre pays, les violences sexuelles continuent à être largement utilisées comme armes de guerre. Le manque de volonté de certains responsables politiques et judiciaires de traiter les violences sexuelles comme des délits graves encourage les auteurs de ces crimes et leurs commanditaires à répéter les mêmes actes de manière de plus en plus brutale et traumatisante pour les victimes. Les auteurs des actes de violence doivent être punis afin que leurs actes ne se répètent plus. Ainsi, les auteurs des crimes pourront être amenés à comprendre l'impact de leurs actes sur la vie de leurs victimes et celle de la société. Un système judiciaire équitable, qu'il soit traditionnel ou classique ou international, permet de restaurer les victimes dans leurs droits et dans leur dignité. Un système judiciaire juste et opérationnel amène toutes les parties à mieux comprendre comment ont surgi les conflits ethniques. Enfin, si la justice est faite entre les groupes et les hommes, alors on amoindrit les sentiments de vengeance parmi les victimes et leurs proches. Réclamer justice demande beaucoup de courage moral, mais il est de notre devoir à tous de rappeler à nos élus que sans justice, c'est la violence qui continuera à gouverner notre pays.
Voilà, c'était une conclusion faite par Marcel Kanko. Madame Baïdila, on va terminer avec vous. Comment les citoyens congolais aujourd'hui peuvent contribuer à la mise en place d'un système judiciaire neutre, impartial et opérationnel? Quel est le rôle de nos élus dans ces processus?
Merci pour cette question qui est très importante pour moi, parce que là, je vois l'implication en fait de la population. Parce que les violences sexuelles dont nous parlons maintenant, ce sont des choses qui se produisent dans notre société, dans la population et dans la vie de tous les jours. On a parlé du cas de l'Ituri, mais ce sont des choses qui se font tous les jours dans nos foyers, dans nos familles, surtout à la cité, dans les quartiers périphériques et même chez les grandes, des personnes de classe supérieure. Alors là, comment la population peut contribuer? Là, je vois d'abord le travail que la presse doit faire. Dans le travail de la presse a un rôle à jouer en dénonçant les actes. En fait, je crois que le journaliste, c'est la personne qui sait chercher l'information auprès de la population, c'est la personne qui vit avec le peuple, donc on peut dénoncer ces actes. Mais il y a également le travail qui doit être fait par le Parlement. Il y a déjà un document qui est mis en place par le Parlement.
C'est depuis le mois de juillet dernier.
Exactement, qui condamne les actes de violence sexuelle. Le Parlement, en tant que représentant du peuple, il est l'organe de contrôle. Il peut en fait contrôler tout ce qui se passe dans la société parce que le Parlement représente le peuple. Mais dans la mesure où les intérêts de la population sont en jeu, le Parlement peut même interpeller les animateurs de l'appareil judiciaire. Pourquoi pas? Donc le Parlement a également un grand rôle à jouer, mais il y a également le système éducatif. Troisièmement, le système éducatif qui peut aider à la conscientisation de la population, à la connaissance des droits. Parce que quand les femmes sont violées, moi je dis quelque part, il y a en fait la reproduction des préjugés, des stéréotypes à l'égard de la femme, cette discrimination à l'endroit de la femme qui fait que la femme dans notre société parfois est considérée comme un être inférieur à qui on peut tout faire, à qui on peut tout se permettre. Donc il y a cette conscientisation-là du système éducatif. On peut déjà commencer à éduquer les enfants quand ils sont très jeunes, à l'école, à la maison, à l'église, pourquoi pas, en fait, dans tous ces systèmes-là éducatifs, en utilisant des moyens non violents. Hein, montrer aux gens comment connaître leurs droits, comment conscientiser toutes ces personnes-là. Et la société civile, si je dois terminer pour cette question, à travers les organisations de droits de l'homme, doit faire ce travail de terrain, par exemple, pour parler aux gens, pour conscientiser tout le monde. Voilà, la presse, le système éducatif, le Parlement, les ONG peuvent faire ce travail. Absolument, c'est un problème de société, tout le monde doit mettre la main à la pâte.
Les sociologues disent le problème global, au problème global, il faut des solutions globale. Et je crois que le message est passé. Merci Madame Baïdila d'avoir été de nôtre aujourd'hui dans la chronique La Bénévolentia. Nous vous retrouvons dans deux semaines sûrement. Hein, donc pour un autre sujet. Nous allons nous arrêter là, vous aujourd'hui, avec Okapi Action. Vous avez été avec nous durant toute cette semaine, Nicole. Nous ne pouvons que dire merci à tous les auditeurs qui ont été avec nous fidèlement.
Oui, et remercier également ceux qui nous ont aidés pour la réalisation de cette émission, notamment William Longamba, Jody Kachema et Jolie Laure Baliboto qui étaient dans la coordination. Allez, passez un excellent week-end en compagnie de Radio Okapi. Thank you.